Normalement, on devrait continuer dans notre étude des petits prophètes, mais comme c'est l'été et que d'une semaine à l'autre, on ne sait pas qui va être encore là, on continue un peu sur les sujets, des sujets sur des. On enseigne plutôt, au lieu d'enseigner sur un livre complètement, on a pris des passages. La semaine dernière, j'ai parlé de 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, qui nous dit de. Et le thème, c'était ne pas regarder le doigt quand Dieu vous montre la lune. L'idée, c'était qu'il y a des choses éternelles qui nous attendent et qu'il faut avoir la juste perspective des choses. Et en parlant de lune, combien ont regardé l'éclipse ou ont essayé de la voir? Il y en a 1, 2, 3. Dommage, parce que la prochaine fois que vous pourrez voir ou essayer de voir une éclipse de cette nature, ça sera en 2123. Il y aura d'autres éclipses, mais pas de durée aussi longue et aussi spectaculaire. Donc la prochaine éclipse, c'est dans 105 ans. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé que des fois on se fait des soucis pour des choses alors que finalement, je doute que je sois encore là dans 105 ans. Il faudrait un miracle de la science et pas que je le souhaite. Mais je me disais en même temps, même les plus jeunes d'entre nous, c'est pas donné que dans 105 ans, peut-être Django sera là. C'est la lune! Mais le temps passe très vite. Et ce sentiment du temps qui passe vite, ça nous ramène à notre petitesse d'homme. Et une des choses qui est merveilleuse en tant qu'homme, c'est de songer, de contempler, de penser à Dieu. Et un des passages les plus beaux, je vais vous demander de vous y tourner, c'est le psaume 139. On va méditer un peu sur ce psaume ce matin. Psalm 139. Si Dieu est vraiment notre créateur et que nous sommes ses créatures, notre premier souci, ça devrait être de le connaître. Quelqu'un a dit que la solution à tous nos problèmes, c'est la connaissance de Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes conscients de cette réalité, de ton existence, mais bien souvent, nous ne pensons à toi que quelques heures par semaine ou quelques heures par jour, quelques minutes par jour des fois. Et quelqu'un faisait remarquer justement que mathématiquement, si nous passons 1% de notre temps conscient sur Terre à penser à toi, tu n'existes que pour 1% de notre existence. Et pourtant, Seigneur, on vient d'en parler, tu existes, tu es la solution à toute chose, tu es le Créateur, nous sommes tes créatures, aide-nous à te mieux connaître. Merci parce que c'est aussi une façon, lorsque nous te connaissons mieux, d'être à même de te faire davantage confiance. Le psalmiste disait, psaume 34, 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Seigneur, aide-nous ce matin. Pensons aussi à toutes les églises de cette ville, celles qui t'adorent en esprit en vérité. Nous te remercions pour le fait que nous ne sommes pas seuls dans cette ville, que nous avons des frères et sœurs, des églises qui veulent aussi faire avancer l'évangile de Jésus parmi nos concitoyens, parmi nos contemporains. Bénis ceux qui sont en vacances, ceux qui se reposent, ceux qui se ressourcent. Sois glorifié, Seigneur. Amen. On parle souvent du grand prédicateur anglais du siècle dernier, 19e et 20e, Spurgeon. Et en fait, il disait plongez au plus profond de l'océan divin. Perdez-vous dans son immensité. Et vous en reviendrez comme au sortir du lit, reposé et revigoré. Et il ajoutait, je ne connais rien de mieux qu'une rêverie pieuse sur la divinité pour réconforter l'âme, pour calmer les flots gonflants de la tristesse et du chagrin, et pour apaiser les vents de l'épreuve. Une pieuse rêverie. C'est un peu anachronique comme expression. Nous, si ce n'est pas sur Facebook ou Internet ou Twitter ou je ne sais pas quel est votre réseau social favori, on n'a pas le temps pour tout ce qui n'est pas là-dessus. Par contre, on peut passer des heures à regarder Instagram, Twitter, sans compter Facebook. Et pourtant, bien souvent, plus on contemple et on regarde ces choses, et plus on est agité. Et plus on a de choses à faire. On veut répondre, on veut souhaiter l'anniversaire d'un tel qu'on avait oublié. Et ça ne nous apporte pas le repos. Et j'aime bien cette idée de l'océan divin dont parle Spurgeon. J'essaie, quand je vais nager dans la baie des Anges, qui est appelée ainsi à cause des requins, des petits requins qui l'habitent, et pas à cause des anges divins qui voleraient au-dessus, me penser que l'amour de Dieu, c'est toute cette eau qui m'entoure et qui me soutient. Et je peux boire la tasse, je peux boire une gorgée de cette eau, qui n'est pas très bonne parce qu'elle est salée, mais si je veux me rincer ou quelque chose. Et pourtant, je n'entame en rien l'immensité de cet océan, de cette Méditerranée. Et là, Spurgeon nous encourage à prendre le temps de méditer. On ne parle pas de méditation transcendantale. Dans ce cas-là, ce n'est pas le genre de chose où on essaye de faire un bruit pour se vider de tout. C'est au contraire s'ouvrir à Dieu. Ça peut être dans les pensées, mais c'est souvent le mieux, c'est en ouvrant sa parole, en laissant l'Esprit Saint qui l'a inspiré nous la restituer de façon personnelle et détaillée. Et c'est vrai que pour moi, c'est souvent dans la nature, dans la beauté de la nature de Dieu, que je peux le mieux plonger dans cet océan divin. C'est moins évident ce matin à la gare Montparnasse, avec la chaleur et les foules qui doivent être désespérées de ne pas pouvoir partir comme elles le souhaitent. Mais il nous appartient de trouver ces moments, de trouver ces instants où on peut réfléchir et se délecter de qui Dieu est. Une façon de décrire Dieu, c'est de décrire ses attributs, ses caractéristiques, ses qualités. Et en fait, lorsqu'on parle d'attributs, il y a des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu, et puis d'autres qui peuvent se retrouver en partie chez nous, parce que n'oublions pas, nous avons été créés à l'image de Dieu. Parmi les qualités uniques à Dieu, il y a le fait qu'il est souverain. Il est au-dessus de tout, toute autorité dans l'univers. Il est le chef suprême. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est infini. Il est omniscient, il sait tout, rien ne le surprend, rien ne le prend au dépourvu. Omniscient, il est aussi omniprésent, il est présent partout en même temps. C'est des concepts qui nous avons du mal à saisir, mais c'est ce que sa parole nous annonce. Il est aussi omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il a toute puissance, rien ne lui est impossible. Alors je sais que les hommes aiment bien arriver à trouver des situations un peu bizarres pour montrer que ce n'est pas vrai, en disant « Est-ce que Dieu peut faire un rocher aussi lourd qu'il n'arrivera pas à le soulever ?» Mais ça, c'est de la bêtise humaine que de poser ce genre de questions. Et puis, il est immuable, c'est-à-dire que sa nature ne change jamais. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on sait que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et tous ces attributs sont uniques à Dieu. Je ne suis pas le chef suprême, je ne suis pas infini, je ne suis pas éternel. J'ai eu un commencement, je n'ai peut-être pas de fin, mais je suis loin d'être omniscient. J'étais omniscient à 18 ans quand je parlais à mes parents. Je savais tout et eux ne savaient rien. Je ne suis pas omniprésent. Pour être ici, il a fallu que je prenne un avion, que je voyage longtemps pour revenir de Seattle. Je ne suis pas tout-puissant, je ne suis pas omnipotent. Il y a plein de choses qui me sont impossibles. Et en fait, il y a très peu de choses qui me sont possibles. Il faudrait raisonner dans l'autre sens. Est-ce que je suis immuable? Pas si je regarde mes caractéristiques physiques, mes cheveux, ma taille, mon intelligence, ma mémoire, toutes ces choses changent. Mais il y a d'autres attributs qui sont des attributs moraux, des qualités morales. Dieu est droit, il n'est pas l'auteur du mal et il ne fait jamais le mal. Il m'invite à être droit aussi. Dieu est parfaitement juste. Son jugement est parfait. Il connaît tous les éléments d'un dossier et lorsqu'il décide de quelque chose, il le fait en toute justice. Je suis invité à me comporter de façon juste, mais mes limitations humaines font que je ne sais pas tout d'une histoire. J'ai tendance à juger alors que je ne sais pas l'arrière-plan des choses. Tendance à avoir des préjugés sociaux, des préjugés de race, des tas de préjugés qui font que mon jugement est souvent loin d'être juste. Il est amour. Lui, il est l'amour parfait. Il donne son amour de façon gratuite, inconditionnelle à chacun, dans le cadre de sa grâce. Il m'invite aussi à refléter son amour, à accepter l'autre, à ne pas aimer seulement en retour lorsque l'autre fait des choses qui me sont agréables. La vérité, c'est un de ses autres attributs qu'il attend de nous. On ne doit pas propager des fake news, on ne doit pas dire de mensonges, on doit essayer dans notre mesure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et le psaume 139, qu'on va lire ensemble, aborde ces attributs de Dieu que sont l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, et m'invite à trouver un grand réconfort dans ces attributs. Mais aussi, on va le voir à la fin de ce psaume, sont une invitation à obéir à Dieu. Dieu est là, c'est ça le thème du psaume 139. Et c'est comme un chant de louange. C'est un chant de louange que ce psaume, c'était souvent le cas, les psaumes étaient des prières ou des paroles de louange qui étaient faites pour être chantées. Si vous êtes comme moi, vous connaissez sans doute des paroles de chansons que vous n'avez jamais essayé d'apprendre. Mais le fait d'entendre une chanson, ça vous les met en tête. Et de la même façon, Dieu voulait que ses enfants connaissent sa parole. Et les psaumes étaient faits pour ça. Il y avait d'abord une musique sur laquelle ils étaient chantés. Malheureusement, cette musique n'a pas été conservée. C'est seulement par tradition qu'on peut dire que certains chants d'aujourd'hui reflètent les chants de l'époque, mais c'est pas garanti. Il n'y avait pas de MP3, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas de cassette, il n'y avait même pas de notation musicale élaborée à l'époque. Et puis, il y avait des méthodes pour que les gens se souviennent des paroles. C'était souvent, par exemple, le fait que c'était des acrostiches. C'est-à-dire que ça commençait, chaque partie du discours, du verset, commençait par une lettre de l'alphabet, comme aujourd'hui A, B, C, D. Et comme ça, on se disait, ah, je viens de parler de quelque chose qui commençait par A, maintenant c'est quelque chose qui commence par B, si on avait oublié. Et la poésie de hébraïque dont sont faits les psaumes et les proverbes et d'autres, ce n'était pas nécessairement basé sur des rimes riches, mais il y avait des répétitions plutôt dans la pensée de l'auteur. La pensée était soit contrastée. Il y avait un verset qui disait quelque chose et le verset suivant disait le contraire. Soit c'était un renforcement de la première idée. Donc c'est un peu déconcertant pour les profanes que nous sommes, si nous ne parlons pas l'hébreu et que nous ne sommes pas au courant de ces procédés. Mais en même temps, de tout temps, on s'est attaché à traduire ces psaumes de façon poétique. Et c'est un langage poétique. Donc c'est pas un récit historique, c'est pas un traité de théologie comme on l'a vu avec Romain, l'étude de la lettre de Paul aux Romains, mais c'est un genre qui fait du bien à l'âme. Et aujourd'hui, comme on apprécie un poète, un chanteur, Dieu voulait qu'on apprécie l'inspiration de l'Esprit Saint qui donnait ses vérités à méditer, à contempler. Donc on va lire ensemble ce psaume 139 qui est dédié au chef de chœur, un psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent mon nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On a dit donc que ce psaume parle de l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Il parle de l'omniprésence, Dieu est partout. Il parle de l'omnipotence, Dieu est infiniment puissant, rien ne lui est impossible. Et on a dit qu'en fait ce pouvoir, il avait aussi un pouvoir créateur, un pouvoir de guider, un pouvoir de juger, et que ça m'invitait à lui obéir. À me dire qu'en fin de compte, la meilleure chose que je pouvais faire, c'était lui obéir. Alors on peut débattre, ou on peut parler de ces sujets de façon théologique. Dieu est omniscient, il connaît tout. Mais ce n'est pas ça que nous dit le David. C'est que non seulement Dieu connaît tout, mais il me connaît. Non seulement Dieu est partout, il est omniprésent, mais il est partout là où je suis. J'aime bien le proverbe qui se moque un peu des gens qui partent pour se trouver quelque part, qui disent « je vais aller au Népal pour me trouver moi-même ». Trouver qui je suis vraiment. Et on a l'impression que si on va plus loin, on va mieux trouver. Mais la réplique, c'est de dire que partout où vous allez aller, là vous allez être. Vous n'allez pas pouvoir échapper à qui vous êtes en partant. Et de la même façon, partout où je suis, Dieu est là. Dieu est avec moi. Et puis, Dieu est omnipotent, il a tout créé, c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas simplement ce que nous dit le psalmiste. Dieu a tout créé, certes, mais il m'a créé. Il a créé ma personne, mon être, mes aspirations. Quand on parle de ça, il y a des doctrines ou des approches philosophiques où on parle de panthéisme, Dieu est partout. Dieu est dans la matière, mais non. La Bible est claire qu'il y a un créateur et que nous sommes ses créatures. Et qu'on tombe dans beaucoup de problèmes lorsqu'on pense qu'on est des créateurs et qu'il n'est pas le seul créateur. Créé à son image, nous avons aussi des capacités de création, mais il ne faut pas confondre le créateur et la créature. Paul nous expliquait que c'était la source de nos problème, ou que c'était une des manifestations du péché dans la race humaine, mais c'est que, au lieu de célébrer le Créateur, nous célébrons les créatures. Et ce psaume est divisé en 24 versets, et en quatre parties de six versets, on peut le regarder comme cela. Donc le premier, c'est les versets 1 à 6. Dieu est omniscient. Et là aussi, ce n'est pas un principe divin, c'est une personne qui sait des choses sur tout et en particulier sur moi. Ce qu'il va nous dire dans cette première partie, les versets 1 à 6, c'est que Dieu me connaît de façon intime. Et qu'en conséquence, c'est la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu est parfait, il ne peut rien apprendre de nouveau. S'il apprenait quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans ses connaissances initiales qui était imparfait. Il nous dit, éternel, donc c'est le terme générique pour parler à Dieu, éternel, tu m'examines et tu me connais. Le mot examiner, qui est des fois traduit par tu me sondes, c'est le même mot qui veut dire miner, trouver le métal qu'il y a dans un terrain. C'est aussi le même mot en hébreu que le mot pour explorer un territoire. Quand on explore un territoire, on prend son temps, on fait des mesures, on fait des cartes. C'est aussi le mot qui était utilisé par des juges qui enquêtaient sur une affaire légale. On a entendu parler de cette commission d'enquête à l'Assemblée et au Sénat, on a vu toute l'organisation, les questions, les comptes rendus, les imperfections, les révoltes des uns et des autres, peu importe, mais c'est cette idée d'examiner avec le plus grand soin. Et ce même Dieu qui m'examine, il me connaît. Il me connaît de façon intime. C'est le même mot qui est utilisé pour parler des rapports conjugaux, le mot yada. Dieu nous connaît comme si, mieux même que si nous étions mariés. Cette idée du mariage est reprise dans le Nouveau Testament avec les noces de l'agneau. L'Église va être l'épouse de Christ. Mais personnellement, vous pouvez mettre votre propre prénom. Dieu, tu examines Pierre et tu connais Pierre. Et puis, il a des expressions qui sont une figure de style pour dire que Dieu sait tout de moi, il sait tout de mes déplacements. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Et hier, en préparant cette réflexion, je remarquais que j'arrêtais pas de me lever pour aller boire un verre d'eau, que j'allais pour aller ouvrir la porte, et je me disais, je serais incapable de dire à une commission d'enquête combien de fois je me suis levé, combien de fois je me suis assis, qu'est-ce que j'ai fait à chaque instant, et pourtant Dieu sait tout ça. J'aime bien dire que ce qui me paraissait impossible à une époque, je me disais, oui, c'est bien beau, on dit que Dieu me connaît intimement, et c'est quand je me lève, quand je bois de l'eau, etc. Mais ça, en fait, ça veut dire qu'il sait ça de tous les hommes, de toutes les femmes. C'est impossible. Et puis, ça, c'était avant que n'arrivent les ordinateurs, je me date. Mais j'ai participé au premier balbutiement de l'informatique avec des ordinateurs qu'on alimentait avec des cartes qu'on perforait sur des machines. Et il ne fallait pas perdre le bac de cartes, sinon le programme était fichu. Mais d'un seul coup, pour nous qui sommes au 21e siècle, avec des ordinateurs dans nos poches, l'idée que on peut demander à une application la température qu'il fait dans n'importe quel endroit du globe. Et je dois dire que l'avènement de l'informatique, sa multiplication, fait que l'idée que Dieu puisse savoir autant de choses, elle ne m'est plus si difficile à admettre. Des ordinateurs qui sont créés par les hommes finis que nous sommes sont capables d'emmagasiner, de restituer des milliards de données. Maintenant, l'idée que Dieu puisse tout savoir de moi, ce n'est pas quelque chose de si impossible à admettre, à recevoir. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, donc ça c'est les mouvements de la personne, quand je vais au travail. Verset 3, tu 2, tu discernes de loin ma pensée. Est-ce que c'est physiquement ou est-ce que c'est temporairement, dans le temps? Aujourd'hui, c'est difficile de retrouver des informations sur Facebook d'il y a 2 ans. Alors, je crois qu'il y a des programmes qui sont disponibles pour retrouver ces choses. Mais Dieu, il peut se remettre dans le cadre de vos pensées il y a 50 ans, si vous avez cet âge. Et puis, la distance, si je pars quelque part, il va y revenir, ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Si je vais en Nouvelle-Zélande, aux antipodes, il peut aussi facilement connaître mes pensées que si je suis au pôle Nord, pôle Sud ou au pôle Nord. Il sait quand je marche et quand je me couche. Là aussi, c'est une expression, une figure de style pour dire que quelle que soit mon activité, tu es capable de la suivre. On a encore des problèmes à recevoir Wi-Fi quand on est en mouvement. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, toutes mes voies te sont familières, toutes mes façons de faire, mes petites manies, toutes ces choses, tu les connais. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2 jours, on a enfin mis en place le réseau de satellites européens Galileo. On est tous au bénéfice, on se demande comment on faisait avant, du système de GPS, Global Positioning System, qui nous permet de savoir comment aller d'un endroit à un autre en tapant l'adresse. Maintenant, ça nous émeut plus beaucoup. La seule différence maintenant, c'est que avec le GPS, on pouvait savoir dans quelle rue on était. Avec Galiléo, d'après ce que nous disent les Européens, on pourra savoir de quel côté, sur quel trottoir on se trouve. On est de plus en plus observé. Et le psalmiste David, il dit, même les paroles que je vais dire, tu les connais déjà. On se dit, alors c'est pas la peine de prier. Je crois qu'en fait, quand on prie, ce n'est pas pour le bénéfice de Dieu qui sait tout déjà, mais c'est pour nous permettre de prendre conscience de ce qu'on recherche ou de ce à quoi on aspire, pour nous permettre de saisir les choses qui font qu'on est dans tel ou tel état d'esprit. Ta parole, verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche, le mot savoir, c'est le mot cribler, passer au tamis pour voir ce qu'il en ressort. Dieu voit les choses visibles, mais il voit aussi les choses invisibles comme mes idées. Verset 4, une parole n'est pas déjà sur mes lèvres que tu la connais entièrement. On a cette chance de pouvoir tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Mais Dieu sait déjà ce qu'on voulait dire. Et c'est toujours difficile lorsqu'on dit quelque chose qu'on regrette d'avoir dit, on ne peut plus la rappeler, cette chose, elle est partie. C'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, on peut essayer d'en faire revenir un petit peu, mais une fois que c'est dit, c'est dit. Il est important de réaliser que l'homme ne peut pas se connaître lui-même. La psychologie, la philosophie, même depuis Socrate, depuis les Grecs, c'était le principe de se connaître. Connais-toi toi-même. Et on sait que c'est impossible parce que Jérémie nous a dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Cette connaissance si détaillée peut ressembler un peu à de la surveillance. Nice est connue pour être la ville de France où il y a le plus de caméras de surveillance en France. Notre maire voulait même mettre en place un système de reconnaissance faciale. Et quelque part, ça peut être une bonne chose. Si je tombe dans la rue parce que j'ai fait un malaise, si le système peut dire mon nom et avoir accès à mon dossier médical, mais on a cette méfiance d'être épié dans tous nos faits et gestes. Et c'est un peu ce que ressent le psalmiste. Il se dit, laissez-moi respirer. En anglais, give me a break. Lâchez-moi la grappe, on dit vulgairement. Ce sentiment d'être entièrement connu, d'être entièrement épié, ça permet la transition au passage suivant qui parle de l'omniprésence de Dieu. Non seulement il sait tout, mais en fait, il est omniprésent. Et c'est là qu'il essaye de se dire, où est-ce que je pourrais fuir pour pas être toujours sous ton emprise, le fait que tu connaisses tout de ma vie, tout de mes sentiments. C'est là qu'il commence à se dire, peut-être je pourrais fuir loin de ta présence. Mais en fait, si je monte au ciel, tu es là. Si je descends dans le séjour la profondeur des terres, qui est traduit dans notre passage par « si je me couche au séjour des morts », tu es là, je te vois là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller habiter à l'extrémité de la terre, c'est une formulation très poétique. Et je crois qu'en fait, c'est l'extrémité de la mer. Quand on était en Israël, c'était la fin de la Méditerranée, vers le cap, vers Gibraltar, le détroit de Gibraltar. Et puis après, c'était un peu inconnu. On savait qu'il y avait encore de l'eau. Et prendre les ailes de l'aurore, quand le soleil se lève à l'est, ça va très vite. On voit les choses qui sont éclairées très rapidement. C'est un peu comme s'il se dit, si je pouvais filer à la vitesse de la lumière, est-ce que je pourrais t'échapper ? Il dit non, verset 10, là aussi ta main me conduira, c'est toi qui me dirige et ta main droite m'empoignera. Alors l'idée, est-ce que c'est m'empoigner pour me faire du mal ? Ou m'empoigner pour me secourir et pour me protéger. Je crois que c'est cette deuxième idée. Ta droite me saisira, ta main droite. Le psalmiste réalise qu'en fait, cette connaissance et cette présence de Dieu partout, c'est une bonne chose. Il se dit, même si je file à la vitesse de la lumière, après il se dit, verset 11, si je me dis au moins les ténèbres me couvriront. Les ténèbres m'écraseront ou me frapperont, mais au moins je serai couvert. Et puis il dit, non, la nuit devient lumière autour de moi. En termes très poétiques, David nous dit des vérités que rien n'est caché à Dieu. On a souvent tendance à prêter à Dieu des caractéristiques humaines. Et généralement, dans le noir, on ne voit rien. Donc on se dit, si on fait on commet nos péchés dans le noir, peut-être que Dieu ne verra rien. D'où les lumières ultraviolettes sous les ponts du train de Nice. Cette lumière, on ne peut pas y échapper. On dit qu'elle est bleue parce qu'elle permet plus de voir les veines sur la peau pour les gens qui cherchent à se droguer en se shootant. Mais l'idée que les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Aujourd'hui, il y a des appareils qui permettent de voir dans le noir. L'équipement des soldats modernes met des lunettes qui leur permettent de voir comme en plein jour, sans les couleurs, mais on voit les différences de température ou on voit une image qui nous permet de nous renseigner. Il dit la nuit devient lumière autour de moi. Dieu sait tout, il est partout. Et il passe à un autre concept, le concept de la création de Dieu. Donc Dieu a créé l'univers, mais il m'a créé. Les versets 12 à verset 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins. Alors c'est non seulement la partie du système digestif qui filtre ce que nous absorbons, les liquides que nous absorbons, mais c'est aussi les reins, c'était le siège des émotions, c'était une façon de parler de tout mon être. C'est toi qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. En parlant de choses cachées, il sait que c'est toujours une surprise quand le bébé est né, parce que maintenant on a des techniques modernes où on peut faire des images, même en couleur, avec des ultrasons, des nouvelles techniques qui permettent de reconstituer l'image, des techniques très avancées pour nous. Mais pour Dieu, c'était rien du tout, parce que c'est lui qui nous a créés dans le ventre, le sein de ma mère. Verset 14, je te célèbre. Encore une fois, c'est un chant de louange, c'est une prière. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existât. Il y a ce sentiment, tes pensées sont grandes, tes pensées sont impénétrables, je ne peux pas les compter, tes pensées pour moi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. David s'émerveille de la création de l'être humain. Il considère que dès qu'il y a conception, il y a un être humain merveilleux. Je te célèbre, je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, mon âme le reconnaît bien. La recherche scientifique, la recherche biologique, la recherche médicale mettent en avant les merveilles de l'être humain, rien que dans son aspect physique et médical. On n'a rien trouvé, on fait des recherches où on essaye de mettre en application des choses qui ont été créées par Dieu dans d'autres domaines. Il parle de la façon dont il a été tissé. Il parle, ça fait référence sans doute au système sanguin, au système nerveux. C'est un peu comme il a dû nous tricoter sans qu'on ait notre mot à dire. Vous avez remarqué ? Lorsque on a un enfant, on nous dit qu'on est un père fier. Je dis, la fierté, elle est pour Dieu, parce que moi, j'ai pas vraiment fait grand-chose. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a imaginé un système d'information qui se transmet dans chaque cellule. Et plus la recherche avance, et plus elle est stupéfaite du bien fondé, de la sagesse. Quand on a un accident, quand on se casse une épaule, on remarque comment c'était bien fait avant. Et on aspire à une reconstruction qui gardera toutes les possibilités que Dieu avait mis dans notre être à la conception, à la naissance. J'aime bien la question qui dit « Quelle serait la forme des chaises et des tables si nos genoux se pliaient dans l'autre sens ?» C'est le genre de question stupide qui nous dit qu'en fait, il y a une grande sagesse dans la façon dont nous fonctionnons, dont nous sommes faits, dont nous sommes constitués. Et au passage, la Bible n'est pas pour l'avortement. Contrairement à ce que certains peuvent dire, il y a déjà deux êtres, et là encore, il n'est pas question d'accabler les personnes qui ont pu avoir recours à l'avortement. Souvent, c'est un manque d'information, mais sachez qu'en aucun cas, la Bible n'autorise ou n'admet cette solution radicale, qu'il y a des façons de traiter ces situations. On peut faire adopter un enfant à sa naissance. On a une nièce qui a fait ça et elle est très heureuse de ce qu'elle a pu garder un certain contact, de savoir que cet être qu'elle avait envisagé détruire est maintenant un être qui profite de la vie. Donc c'est une petite parenthèse pour dire que oui, on ne peut pas pensez que c'est la maman qui dispose de la vie de son enfant. Il y a deux êtres, même dès l'instant de la conception. Et notre tâche en tant que chrétien, ce n'est pas d'aller tuer des médecins qui procèdent à des avortements ou mettre la culpabilité sur les personnes qui se retrouvent à avoir ce genre d'intervention, mais au contraire de les aimer, d'être là pour leur dire que s'ils ont besoin d'aide, on peut les aider à loger chez nous et faire partie de la solution au lieu d'ajouter au problème qui est celui de l'avortement. Dieu, tu es partout pour moi. Dieu, tu nous as créés de façon merveilleuse. Encore une fois, j'allais ajouter, il n'y a pas de système aussi bien fait pour porter des structures que le système osseux de l'homme, qui peut être malade et se casser, etc. Mais au niveau de la légèreté, de la substance et de la capacité au choc, au poids, les scientifiques regardent encore comment c'est fait pour essayer de trouver des méthodes plus efficaces pour faire des choses créées par l'homme. Et puis cette idée que, verset 16, tous mes jours, Dieu connaissait le nombre de mes jours et savait tout ce que j'allais rencontrer. Le fait de savoir ne veut pas dire qu'il contrôle, le fait qu'il sache que je pêche ne veut pas dire que c'est lui qui me force à pêcher, mais cette connaissance, lui, il voit le temps, pas de façon séquentielle, mais il le voit comme développé devant lui. Il voit tout. Il nous a créés. Et là, c'est vraiment son omnipotence. j'aurais des passages, mais le temps nous manque, des citations pour les, parler des, du corps humain qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et puis, il se réveille, il est encore avec Dieu. Comment vous êtes au réveil ? Est-ce que vous sautez du lit et où est-ce que vous dites « Où est-ce que je suis ?» Mais là, de toute évidence, il se retrouve avec Dieu, mais il se retrouve avec ses problèmes. Et il pense tout de suite à ses ennemis. Et là, il se dit « Oh Dieu !» Aussi l'idée, pardon, j'ai sauté ça, « Les pensées de Dieu sont impénétrables, elles sont plus nombreuses que les grains de sable sur la plage. » Là aussi, Dieu dit que c'est, on ne peut pas mesurer ça, mais il y a bien sûr des scientifiques qui ont essayé de compter et ils ont trouvé que c'était à peu près 10 à la puissance 29. 10 suivi de 29 zéros. Et ce nombre-là, c'est aussi le nombre que certains ont trouvé pour le nombre des étoiles. 10 à la puissance 29. Peu importe, sachez que Dieu pense à vous. Dieu pense à moi. Et quelque part, c'est transformateur. Plutôt de penser qu'on est ignoré par Dieu, qu'il nous a peut-être fait un petit coup de pichenette pour nous mettre en route et puis qu'après on doit se débattre dans nos problèmes. Non, tout ce qui nous arrive, Dieu est au courant, Dieu l'a prévu ou permis. Et il parle des ennemis de David, de ses ennemis à lui. Et il dit, ce sont des hommes méchants, des hommes sanguinaires. Et c'est vrai qu'on savait qu'il était persécuté. Ils utilisaient même Dieu pour justifier leur haine de David. Et il dit, en plus, ce sont des gens qui te détestent, qui n'ont aucun respect pour toi. Comment est-ce que je ne peux pas les détester moi aussi ? Alors, il ne s'agit pas de cultiver la haine. Même si à l'époque de David, il avait cette idée de Dieu qui était qu'on pouvait invoquer pour faire du mal aux gens. Mais tout de suite, il se rappelle qu'en fait, le problème, ce n'est pas les autres, même s'ils peuvent être un problème pour nous. Le problème, c'est moi-même. Au cœur de chaque problème, quelqu'un a dit, il y a un problème dans le cœur, il y a un problème dans mon cœur. Et il demande à Dieu de l'examiner. C'est le même mot qu'au début. C'est cribler, c'est rechercher comme pour trouver une pépite. Vraiment voir tout ce qu'il y a à l'intérieur et connaît mon cœur. Il lui demande, mets-moi à l'épreuve et teste un peu comme on recherche du métal. On va faire un travail de mineur, mais quand on a trouvé un minerai, on va le tester, on va le passer à la chaleur pour voir s'il en ressort de l'argent, de l'or, du métal, du plomb, de l'antimoine, ou connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psalmiste est convaincu de la puissance de Dieu qu'il m'a créé, il me connaît par cœur. Il voit mes péchés. Quand j'essaye de me cacher dans le noir, il me voit comme en plein jour. Et donc, il se résout à lui demander son aide pour plaire à Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Moi, je ne m'en aperçois pas tout de suite. Mais toi, tu peux me détourner d'un mauvais chemin. Telle voie paraît droite à un homme, et à la fin, c'est la voie de la mort, nous dit plusieurs proverbes. Toutes ces choses-là font que je peux me soumettre à Dieu, sachant que de toute façon, dans 105 ans, il y aura une nouvelle éclipse. Il y aura peut-être du mauvais temps encore. Il faudra peut-être encore attendre, je ne sais pas combien de centaines d'années, mais Dieu sera toujours là. Et Dieu est présent. Quelqu'un a dit, la présence de Dieu dans sa gloire, elle est dans les cieux. La présence de Dieu dans sa puissance, elle est sur la terre, dans l'univers physique. La puissance de Dieu dans sa justice, elle est en enfer. Dieu est présent partout, même en enfer, c'est l'aspect de sa justice qui est présent. Mais la présence de Dieu dans sa grâce, elle est avec nous. Nous pouvons remercier Dieu que ce Dieu si puissant, si majestueux, qui sait tout, qui est le plus puissant des ordinateurs qu'on puisse même imaginer, il me connaît, il m'aime et il me pardonne mes péchés.